Aujourd'hui, double tournoi, on va analyser l'Australian Open et le Irish Open. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de
21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational.
I'm the bad guy.
Take that.
Salut Benoît, comment vas-tu ?
Salut Ewan, comment je vais ? T'as parlé de double tournoi, moi j'ai envie de parler de double peine.
C'est beau. Voilà, disons-le tout de suite, ça va pas être l'épisode de l'année. Voilà, je vous le vends très très bien, mais restez quand même parce que ça peut potentiellement être un peu marrant. Pourquoi on débriefe deux tournois au lieu d'un seul comme d'habitude ? Parce que aucun des deux, on va pas se mentir, ne méritait un épisode à lui tout seul. On a d'un côté l'Australian Open où il y avait quelques gros joueurs et beaucoup de joueurs inconnus. En fait, le niveau était très très hétérogène. Et de l'autre côté, un Irish Open où le niveau était plus homogène mais plus faible, mais où il y avait pas mal de Français mine de rien. Donc ça mérite qu'on en parle quand même. On va respecter la hiérarchie des tournois, on va dire, et commencer par le Super 300, c'est-à-dire l'Australian Open qui me semble-t-il passera en Super 500 l'année prochaine. Et on va commencer direct avec le simple homme et la victoire de Shi Yuxi. Benoît, on va pas s'arrêter match par match parce que sinon, déjà, on n'en a pas vu beaucoup et en plus, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu peux me dire de la semaine de Shi Yuxi qui a quand même battu donc, en finale son compatriote Lu Guangzhu. Il a battu le japonais Naruaka en demi-finale et Lokinyu en quart. Il avait même Tsuneyama dès le premier tour. Donc, on va dire pour le niveau général du tournoi, Shi Yuxi c'est pas vraiment une victoire au rabais parce que il a quand même battu des bons joueurs pour le coup.
Oui carrément. C'est lui qui avait le tableau le plus dur. On sait qu'avec son statut de non tête de série, il vient de, je crois qu'il est pas rentré dans le top 20 mais là il doit être 21. Il a toujours des tableaux compliqués et même sur un Super 300 clairement il a eu un tableau très compliqué. Je pense que les deux meilleurs joueurs de ce tableau sont rencontrés en demi, clairement Naraoka et lui. Je pense que c'était les deux meilleurs joueurs du moment en tout cas dans ce tableau
et ils nous ont donné le meilleur match
tout à fait. Je regrette pas de bien les avoir choisis cette semaine. Maintenant, je sais pas trop ce que t'en penses, mais Shi Yuxi, quand on voit qu'il est capable de ça, et puis quand on voit ce qu'il fait à Paris ou en Allemagne, chelou parce que sur les 4 derniers tournois disputés, deux titres et deux défaites au premier tour. Surprenant.
C'est vrai que depuis son retour, il nous a vraiment tout fait. Encore en celle en France, je pouvais l'expliquer parce qu'il sortait d'une semaine éreintante au Danemark.
Oui.
Autant celle, c'est en Allemagne, c'est ça, où il s'est refait sortir au premier tour.
Ouais, c'est
celle-là,
ça.
Je l'explique beaucoup moins. Et ouais, je sais pas parce que en plus, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Lui a besoin de points, pas pour les World Tour Finals comme les autres, mais lui pour rentrer dans les tournois et être tête de série. 2023. Et du coup c'est pas un manque de motivation mais je sais pas, après c'est le mec est pas non plus une machine, il a pas joué depuis super ouais. longtemps, c'est peut-être logique qu'il puisse pas enchaîner les grosses semaines et qu'il arrive pas toujours à se mettre au niveau, je ne sais pas. On verra, j'ai envie de dire on verra à partir de la Malaisie l'année prochaine s'il arrive à être plus régulier, parce que pour l'instant c'est vrai que c'est les montagnes russes. Mais quand son niveau est là, il est impressionnant, hein, franchement, contre Naruaka. Benoît, je sais pas ce que t'en penses, mais longtemps j'ai cru qu'il allait finir par craquer, tant dans le troisième set, le japonais paraissait meilleur. On va dire que Shi Yuxi a un peu laissé passer l'orage et il a été solide.
Bah, il était toujours derrière et puis je crois que c'est à 19 ou 18. Il a choisi son moment, mais y a une mini part de réussite quand même parce qu'il est toujours derrière dans ce troisième set. Mais il est jamais très loin non plus et je pense qu'il a attendu le moment où Naraoka a peut-être trop voulu faire le show parce que clairement il a fait le show dans ce match et à ce moment-là Shi Yuxi il s'est engouffré quoi.
C'est ce que j'allais te dire. Naraoka il a fait les points et il a fait les fautes.
Ah oui.
Mais Shiyushi, je pense que ce genre de joueur, ça lui convient très bien. Parce que du coup, il a été solide, il l'a contré. Et derrière, le japonais a manqué peut-être un petit peu de physique, pour arriver à conclure. Mais il s'est un peu enflammé aussi, t'as raison. Et en finale, bon, les deux premiers sets ont été très, très bons pour, on va dire, pour une finale entre chinois, mecs d'un même pays. Les deux premiers sets, je trouve, étaient de bonne facture. Bon, Lu Guangzhu a totalement craqué. Ou à arrêter de jouer, vous choisirez l'option que vous voulez dans le troisième set. Mmh. Mais c'était pas trop mal comme match. Voilà, quelque chose à rajouter sur la semaine de Shiyushi ou pas ?
Non, on a bien parlé de celle de Shiyushi.
Benoît, la grosse déception, c'est la défaite de Lizija dès le deuxième tour contre Lu Guangzhu. Donc Lu Guangzhu, je l'ai pas dit, mais donc finaliste qui avait déjà gagné ici en 2018. C'était voilà, là il y a. Ça paraît être une autre époque. Il y a eu deux années du coup qui ont sauté pour l'Australian Open. Et ouais, le Chinois qui bat Lizija 20-22, 21-15, 21-16. Voilà, Lizija, il avait quand même. Il avait quand même une autoroute un peu vers la finale, et ça a été très surprenant et très décevant de le voir tomber aussitôt, quoi.
Ouais, et puis autoroute vers la finale. Et surtout, on va pas parler de toutes les qualifs pour les finals, mais il avait les cartes en main pour aller se qualifier pour les finals. Et clairement, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Enfin, je veux dire, après, en termes de potentiel de joueur, oui, il devrait y être parce qu'il est dans le top 8 mondial sans aucun débat. Mais sur ce qu'il fait sur la saison, je trouve que son absence aux finals, elle sera pas volée. Et en fait, c'est assez à l'image de ce qui s'est passé en Australie.
Ouais, c'est vrai que là, nous, en plus Benoît, on avait fait tous les petits calculs avant pour voir ce qui pouvait se passer en fonction de qui passait pas. Tout ça pour qu'au final, il fasse un peu n'importe quoi il y aille pas à cause d'une défaite, on va dire, ouais, très, très, très surprenante. En tout cas, Narwaka, lui, ira aux finals. On aura l'occasion de reparler de tout ça. Et pour le reste du tableau, donc voilà, Ngo Tse-yong qui fait demi. Ouais. On va pas, voilà, dans les autres joueurs que vous pouvez connaître, il y avait des bons joueurs, mais le truc c'est que c'était pas forcément très bien réparti dans le tableau. Par exemple, Roustavito qui se fait sortir par Narwaka dès le premier tour. J'ai parlé de Tsuneyama. Il y a Wardoyo qui se fait sortir dès le premier tour par Li Shifeng. Donc ouais, et à côté de ça, il y avait des premiers tours entre illustres inconnus ou alors même des forfaits avec des matchs qui se sont pas joués. Donc je sais que Benoît, le débat, on va pas en parler longtemps, mais le débat est réapparu de refaire le tirage au sort. En fait, beaucoup critiquent le fait que les tirages au sort soient faits beaucoup trop tôt. Et que du coup, quand il y a des forfaits, il n'est pas refait et du coup le tableau est totalement déséquilibré. Voilà, ce tableau de simple homme, ça peut leur donner du grain à moudre parce qu'il était clairement déséquilibré, ce tableau.
Bah, très clairement, de toute façon, c'est pas compliqué. Quand on se dit qu'il n'y avait que 3 têtes de série, c'est parce que toutes les autres étaient forfaits. Donc, oui, évidemment, et je pense que ça pose des questions au niveau de la BWF et ça méritera d'être un peu réétudié, je pense, parce que on peut pas avoir un tableau de Super 300 clairement comme ça, c'est pas décent.
Clairement. Allez, on passe tout de suite au simple dames.
I'm the bad guy.
Take that.
Simple dame, là aussi, la vainqueur, on la connaît bien, c'est la tête de série 1, Han Se-young, la coréenne qui a battu l'indonésienne Gregoria Mariska Tunjung 21-17, 21-9. En finale. Pour le reste de sa semaine, elle a eu quand même des adversaires qu'on connaît, en l'occurrence Cho Chung en demi, qu'elle a facilement battu, Payu Po, Asuka Takahashi. Elle n'a pas lâché un set de la semaine. Benoît, Han Se-young, elle était venue pour prendre des points, j'ai pas envie de dire facile, mais plus facile que les tournois qu'elle joue d'habitude. Voilà, mission accomplie, elle peut rentrer tranquillement en Corée.
Ouais, troisième titre de l'année, mais surtout Han Se-young, pas de tournée en Europe, donc on savait. Bah, ouais. Je pense qu'elle était là pour se rassurer, évidemment, prendre des points aussi, mais on savait pas trop à quoi s'attendre. En vrai, on savait qu'elle était là en Australie, on savait même pas si elle viendrait déjà au départ. Et elle est venue et elle était, elle, pour le coup. En fait, elle a un peu fait ce qu'on attendait de Lidia. Alors, je pense quand même que les joueurs du tableau de simple homme étaient un peu meilleurs que celui de simple dame, mais elle a fait ce qu'on attendait d'elle, je pense, dans un tableau où aucune joueuse n'était dans le top 8 mondial à peu près, quoi.
Voilà, il y avait peu de menaces. Hein. Il y avait Okuhara, mais Okuhara, on connaît son niveau récent. Oui. Go Jingwei peut-être, mais qui est tombé sur Shoshuang. Donc, en plus, elle avait une partie de tableau pas très compliquée. Donc, ouais, elle a fait le boulot. Et c'est vrai que tu l'as dit, troisième titre de l'année pour elle. Après les Malaysia Masters, c'est le Korea Open, donc deux Super 500. Là, elle y ajoute un Super 300. Pas de titre vraiment majeur, on va dire, pour elle cette année. On verra au World Tour Finals. Mais voilà. Pour le reste, voilà, comme je l'ai dit, Okuhara qui perd au troisième tour contre la chinoise Han Yue, qui a elle-même perdu contre Tun Yung, qui a fait son petit bonhomme de chemin, on va dire. Et dans le haut du tableau, voilà, Shoshuang qui a facilement battu tout le monde avant de perdre contre Han Se-young. Benoît, je vais très vite, mais tu me confirmeras qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire.
Non, c'était, on est allé vite sur le simple homme, mais là le niveau il était encore inférieur. Enfin, je veux dire, c'était à peine un tableau de Super 300. Je veux pas être insultant, mais
voilà, vous l'aurez compris, l'Australie c'est loin, ça coûte cher, et c'est la fin de saison. Je pense que ceux qui n'avaient pas besoin absolument de prendre points ne sont pas venus. Et je crois que je l'avais déjà dit, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer quand ça va passer en Super 500, parce que je sais pas si plus de joueurs, et notamment des Européens, vont y aller, du coup, vont penser que ça rentabilise le coût d'y aller, parce que j'espère en tout cas que ce sera le cas, parce que si en Super 500 c'est toujours aussi triste, c'est quand même pas un très bon choix de la part de la BWF. Mais après, c'est cool que l'Australie et l'Océanie aient un gros tournoi, je dis pas le contraire. En double homme, Benoît, on dit la semaine dernière, il y a deux semaines, qu'ils sont pas bons, et là ils gagnent un tournoi pour nous faire mentir. Ce sont les Chinois Liu Hu qui ont battu en finale les Malaisiens Hong Teo, donc deux paires qu'on connaît, 22-20, 21-16. Liu Hu, cette semaine, ils n'ont pas eu une semaine facile pour le coup, hein, tu vas me dire ce que tu en penses un peu. Ils ont battu donc en finale les Malaisiens Hong Teo, en demi les Taïwanais Li Yang, en quart les champions olympiques également Taïwanais Li Wang, gros match 22-20, 25-23. Ils avaient au deuxième tour les Coréens Choi Kim et au premier tour leur compatriote chinois Ren Tan. Benoît, eux aussi ont eu un tableau vraiment difficile pour le coup, pas un titre galvaudé.
Non, ils ont fait des dingueries, ils ont sauvé des volants de match cette semaine et tout. Mais c'est pareil, tu vois, ils ont gagné le Super 1000 d'Indonésie, l'Indonesia Open, ce qui est quand même peut-être le tournoi à gagner dans l'année avec le China Open.
Et le All England,
voilà. Et puis extinction des feux, alors qu'on voyait en cette paire potentiellement une paire numéro 1 chinoise, incompréhensible. Et là, ils te sortent une semaine. Alors, ils battent Li Wang, qui, à mon avis, sont même pas meilleurs que Li Yang. Mais quand même, ils sortent une vraie semaine. Et puis, surtout contre Hong Teo, en finale, je les ai trouvés hyper sereins. Alors que Hong Teo, on l'a peut-être pas dit assez cette année, mais ils sont passés de paires fantasques à vraies paires du top 10 mondial, moi je trouve. Ils sont hyper constants dans les résultats, alors peut-être qu'ils font pas rêver, ça c'est un débat, mais en tout cas
même
dans
si
les résultats...
encore un peu fantasque, hein, notamment dans cette finale, c'est Teo Yi qui tente des dingueries, genre des trucs sans regarder ou quoi. Des fois t'as l'impression qu'il y a des fils qui se touchent quand ils jouent, mais je suis d'accord que depuis la fin d'année 2021, ils ont vraiment step up.
Mais c'est plus juste la paire fantasque. Évidemment, ils vont pas changer leur jeu et tout, mais il y a les résultats. Ouais, je suis d'accord, on peut pas. Enfin, si tu veux, on pourra en dire un mot, mais il a tenté des dingueries dans cette finale. C'était une exhibition pour lui. Mais ouais, Liu Hu, écoute, c'est le niveau qu'ils ont, enfin, auquel on les attend, moi, je trouve.
Ouais, moi aussi, clairement. Puis je suis d'accord avec toi, je les ai trouvés très, 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 très calmes. On a retrouvé un peu les Liliu où t'avais l'impression que les mecs étaient insubmersibles alors qu'en face ça jouait beaucoup plus vite à chaque fois. Et ouais, là ils ont fait une grosse semaine parce que dès le premier tour ils ont eu des matchs pas faciles, ils ont sauvé des volants de 7, des volants de match, c'était assez dingue. Et ouais, maintenant on les attend à ce niveau-là tout le temps et j'imagine que la Chine les attend à ce niveau-là parce que Benoît, là ces derniers temps on était limite à dire que les jeunes Wang Cheng étaient meilleurs quoi, alors que normalement tu l'as dit, dès que cette paire a été formée elle était quand même censée être paire numéro 1 chinoise parce que le double homme chinois n'est malheureusement plus ce qu'il a été il y a 10 ans quoi.
C'est ça, écoute, je veux pas juger trop vite, mais on voit bien que leur niveau de pointe il est bien au-dessus de ce qu'ils nous montrent 80% du temps, quoi.
Benoît, un mot de ceux qu'ils ont battus au troisième tour, Li Wang, donc les champions olympiques qu'on voyait plus trop dernièrement, ou quand on les voyait, ils étaient nuls. Ouais. Là, de passer d'être champion olympique et de battre tout le monde à ne pas passer un troisième tour à l'Australian Open, même si tu tombes contre une bonne paire, parce que même avant, genre au premier tour, ils ont galéré contre une paire inconnue, c'est triste quand même, au bout d'un moment... Ces derniers temps, ils jouaient même plus ensemble. Là, je sais pas trop, j'imagine, pour prendre des points qu'ils ont rejoué ensemble, mais ouais. Il va falloir faire quelque chose quand même.
C'est triste, mais bon, en même temps, j'ai été limite rassuré sur leur niveau, tu vois. Mais je sais pas quel est l'avenir de cette paire. Là, ils jouent en Australie ensemble. C'est peut-être aussi le retour de Wang Xilin. On va voir début 2023, en fait, ce qui est décidé.
Entre deux singles, Wang Xilin, il se rappelle que c'est un joueur de bad.
Bah c'est ça, j'ai pas, enfin c'est un peu triste parce que cette paire quand même elle nous a fait rêver, leur niveau au JO et même sur la tournée en Thaïlande au début de l'année 2021 c'était une dinguerie et ils sont un peu retombés dans l'anonymat donc c'est un peu triste.
Ouais, je les voyais vraiment pas exploser en vol comme ça mais malheureusement là il faut se faire une raison. Voilà les Chinois, il y avait beaucoup de Chinois dans ce tableau, il y avait donc Liang Wang que j'ai mentionné tout à l'heure. Ils ont perdu contre leurs compatriotes Ezou qui ont fait demi-finale, qui ont fait aussi un gros match et une grosse demi contre Hong Teo. Après on avait voilà les pères coréens Kang Seo notamment qui était là, il y avait beaucoup de Coréens aussi dans ce tableau. Sans oublier les Japonais préférés de Benoît, Koga Saito. Benoît, est-ce que je change de tableau ?
Non. Non, tu sais pourquoi ? Est-ce que tu as vu cette petite paire composée d'un Thaïlandais et d'un Australien dans ce tableau, avec le fameux
Oh mais oui, j'avais pas vu qui c'était.
Et oui, voilà. À l'origine de cette fameuse bagarre, il y a maintenant quelques années. Donc on sait pas d'où sortait cette paire, et puis voilà.
Ni fit pour Poing Papette. Attends, est-ce que c'est lui qui fait finale des IFB ou pas ? Il me semble, hein.
C'est lui qui fait finale
des IFB. Contre Bo Mogensen, quand il y en a un des deux Thaïlandais qui se blesse là. Est-ce que c'est lui ou je me souviens plus.
Oui, c'était lui. Peut-être il était en vacances là, je sais pas. Je sais pas.
Ouais, non. Oui, si, c'est lui. C'est lui en 2016 avec Isara. Ils avaient fait en deux semaines finale au Danemark, finale aux IFB. Voilà. Mais c'est vrai qu'on s'en souviendra plutôt pour la fois où il s'est battu avec son coéquipier en plein match.
Il a aussi joué un mixte, avec une Australienne, si vous voulez tout savoir. Donc,
le mec était vraiment relax. Allez, donc, le double dame.
Aimez-vous le badminton ?
Ah non !
Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne.
Le double dame qui a été remporté par les Chinoises Zhang Zheng. Les Chinoises Zhang Zheng contre les sœurs Aimsard, les Thaïlandaises, 21-19, 21-13. Alors là, le tableau... a été pas mal faussé aussi par pas mal de forfaits, hein, on va pas se mentir. Les Chinoises Zhang Zheng qui ont fait le boulot surtout en quart quand elles battent les Japonaises Fukushima Hirota. Une autre paire japonaise de ce tableau, Matsuyama Shida, ont gagné un premier match et ensuite ont déclaré forfait. Donc ça a pas mal libéré, on va dire, le chemin pour les sœurs Aimsard en haut du tableau. Et donc voilà, et en bas, c'était Matsumoto Nagahara, donc troisième paire japonaise, il y en avait même plus que ça. Elles ont perdu contre les Taïwanaises, d'autres Taïwanaises, Li Teng. Benoît, qu'est-ce que tu veux dire de ça ? Les paires japonaises, c'est trop bizarre, j'arrive jamais à dire leur niveau. Enfin, Matsumoto Nagahara et Fukushima Hirota, c'est un jour oui, un jour non, très compliqué.
Ouais, impossible à juger, puis en plus je trouve qu'elles avaient retrouvé un certain niveau sur la fin de la tournée européenne, autant là, elles avaient pas envie d'être là en vrai, c'est un peu dur de dire ça parce que c'est pas le genre de paire qui ne joue pas les matchs, mais tu sentais qu'elles étaient là par dépit, enfin, il y avait rien à aller chercher pour elles à part du temps de jeu et incompréhensible, et honnêtement, ce tableau, on va dire les trucs, mais il était éclaté, hein.
Ouais, on va passer très vite dessus parce qu'il y avait pas grand chose à dire. Il y avait les Coréennes Jeong Kim qui étaient là, qui est une bonne paire. Elles ont perdu contre les sœurs Aimsard. Mais sinon,
Les sœurs Aimsard qui font une grosse fin de saison quand même. Mais
ouais, c'est vrai qu'on en parlait dans notre notre dernier épisode puisqu'elles ont gagné le Hailo Open.
Ouais.
Elles ont gagné le India Open au tout début de la saison. Là, elles font finale d'un Super 300. Hâte de voir leur année prochaine, mais moi, je pense que dans un an, ça peut facilement être la paire numéro 1 en Thaïlande. Hein.
Oui, c'est pas à toi que je vais le dire, mais ce sera pas bien difficile.
Allez, le mixte.
Look at this, look at that.
Le mixte qui a été remporté par Seo Chae, les Coréens, contre leur compatriote Kim Jeong. Benoît, une finale pas ouf, c'est ce que je peux en dire.
Ouais, bah, c'est ce que tu peux en dire. Ils nous ont quand même rappelé que au-delà de leur classement, je crois qu'ils sont 22 au ranking, un truc comme ça, ce qui est absolument scandaleux. Bah, ils ont un vrai niveau de top 10 mondial de temps en temps quand même.
Ouais, ils avaient même un niveau de top 5 pendant avant d'être séparés. Et de temps en temps, on le voit.
Ils ont eu une sale semaine quand même.
Ouais, là où ils vont chercher le titre, je pense que c'est avant tout en demi quand ils battent Feng Wang. Voilà la parenthèse de Wang Dongping avec Feng Yanzhe. 22-20, 21-14, je pense que c'est surtout là qu'ils vont chercher le titre, parce que pour moi, c'était les deux paires favorites de ce tableau. Alors que en haut, pour le coup, Kim Jong, ils sont pas sortis de la partie de tableau la plus dure que j'ai jamais vue. Hein. Franchement, il y avait vraiment pas grand monde. Ils ont battu en demi Gloria Wijaya, la joueuse indonésienne, avec son nouveau partenaire Ferdinand Sia. Et en bas, il y avait un peu plus de qualité. Je dis vraiment un peu plus, donc avec notamment Feng Wang, Seo Chae ou les Singapouriens et Ethan, qui avec une partie de tableau plus favorable, je pense, aurait pu aller beaucoup plus loin.
Ouais.
Mais sinon, voilà, en gros, il y avait quoi ? Il y avait 4 bonnes paires, et c'est à peu près tout dans ce tableau de mix.
Ouais, ben c'est ça, les meilleures paires, elles étaient en bas. T'avais parlé de la demi contre Feng Wang pour Seo Chae, mais limite, déjà au deuxième tour, quand tu bats Ethan, c'est quand même un premier gros test, parce que ils y jouaient leur place pour les finals, les Singapouriens, donc c'était pas n'importe quoi. Mais clairement, les trois meilleures paires pour moi, elles étaient en bas. Et juste un petit mot, je sais pas si t'as fait gaffe ou si vous avez vu dans le tableau, mais au premier tour, Kaneko Matsutomo, ils ont joué notre indonésienne préférée, Kando. J'oublierai jamais que l'Indonésie nous a essayé de nous faire croire qu'elle était assez forte pour jouer à côté de Tonto Wiyamad en fin de carrière.
C'est vrai, ça n'avait pas fonctionné. c'était un peu comme avec la Chine qui avait essayé de mettre Zhang Nan avec un peu n'importe qui et ça marchait pas. Là, c'était un peu la même chose. Benoît, est-ce que cet Australian Open, dernier tournoi de l'année sur le World Tour avant les World Tour Finals, qui ne restera pas dans les annales, c'est cool qu'il ait plus joué après des années où il s'était pas joué. J'ai pas dit, mais Seo Chae avait déjà gagné en 2018, l'avant-dernière édition. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire, j'ai l'impression.
Oh ben, ça m'a rappelé une mauvaise fin de soirée, 4h du matin, tout le monde dort et il y a deux mecs qui titubent au fond du jardin. Pour moi, c'était à peu près ça, ce tournoi en Australie.
Voilà, c'est ça. Bon, on va l'Australian Open, on va rester sur le tennis, je pense. ce sera mieux. Allez, on passe au Irish Open.
Oh my goodness!
Alors, le Irish Open, on va aller très vite sur les gagnants, puisque c'est pas des Français, donc ce qui est déjà un peu décevant. Mais on va parler des Français qui étaient dans les différents tableaux. En simple homme, il y en avait beaucoup, Benoît. D'abord, je dis un mot du gagnant.
C'est le
Danois Magnus Johannesen qui a battu le Taïwanais Li Chunyi. Benoît, Li Chunyi qui a quand même pas mal fait le ménage dans ce tableau cette semaine.
Qui a plus que pas mal fait le ménage dans ce tableau. Moi, c'est lui que j'attendais au bout, en tout cas un des Taïwanais. En fait, Johannesen, je vais être dur peut-être, mais qui met pas un pied devant l'autre, c'est un peu dur. Mais en tout cas, qui est très loin des attentes qu'on a pu placer en lui. Il nous sort une semaine, mais énormissime, surtout à partir des quarts de finale. Mais moi, je sais pas du tout lui que j'attendais. Enfin, c'est un joueur, pour l'instant, c'est un 2002, il est jeune, mais c'est un joueur plutôt moyen. Et là, il fait une très grosse semaine sur un tournoi européen.
C'est clair que on le voyait pas mal en junior parce qu'il a le même âge que Christo Popov et les deux se tiraient pas mal la bourre, mais depuis qu'il est sur le circuit senior, Ouais, après, on l'a dit que c'est pareil que Christo, c'est qu'il a eu, il est passé sur, chez les seniors quand il y a eu le Covid, donc c'était dur de le voir au début, mais même là, depuis, c'est compliqué
moyen, hein.
Pour... Ouais, très, très compliqué. Les Français, Alex Lanier qui passe deux tours, il bat notamment le papy Pablo Habiaan et le Hollandais Quickel avant de tomber contre un autre Taïwanais qui lui aussi a un peu fait le ménage avant de perdre contre Johannessen, Chi Yujen. 21-19, 21-15, Benoît il avait déjà perdu contre lui il me semble, ouais. Et c'est dommage parce que Alex Lanier, bah, je voyais bien aller beaucoup plus loin dans ce tournoi, plus loin au moins.
Ouais pareil, je pensais vraiment pas que... Enfin, le Taïwanais était dangereux, mais je voyais surtout l'autre Taïwanais beaucoup plus dangereux et il n'était pas dans sa partie de tableau. Enfin, si, enfin, pas, non, pas dans sa partie de tableau à lui, mais ouais, décevant, un peu décevant. Et j'ai été un peu rassuré sur son match face à Habiaan, mais on voit bien qu'il évolue pas à son meilleur niveau. Je sais pas, il faudrait qu'il nous le dise si c'est encore suite au championnat du monde ou c'était son objectif de la saison, très clairement, mais... on l'a vu tellement plus fort cette année que, ouais, forcément, on est déçu de le voir tomber face à Chi Yujen.
Brice Leverdez, alors lui, son niveau, c'est assez terrible. Hein. Il perd au premier tour contre le Danois Ditlev Jägerholm, 21-17, 21-6. Un peu enroulé, le Brice, ces derniers temps, quand même. Hein.
Il nous avait pas habitué à ça, mais là, clairement, ouais, pas totalement prêt pour jouer des matchs de haut niveau, je crois.
Je pense aussi, si on peut appeler ça un match de haut niveau.
Oui.
Lucas Clairbout qui passe un tour contre le japonais Takahashi avant de perdre contre le futur finaliste Lee Chun-Yi, 21-16, 21-10. Est-ce que tu veux en dire un mot? Ou je te mets dans le même paquet, Sacha Lévesque qui lui sort des qualifs, ouais. Donc c'était encore plus compliqué. Et qui perd face à Victor Svensson, pas ridicule, 21-14, 21-19. Déjà, bon, il aura le mérite d'être sorti des qualifs, Sacha Lévesque.
Sacha Lévesque, très intéressant, j'ai beaucoup aimé, on le dit en top 12, mais là je suis content de le voir un peu à l'international. Le seul problème c'est que quand tu joues 3 matchs au qualif, on l'a déjà dit hein, pour d'autres tournois, mais c'est
ouais,
un enfer. De...
C'est dur, tu joues 3 matchs de qualif, t'arrives, tu tombes contre la tête de série 5, bon, pas grand chose à faire.
Qui est en plus un très bon joueur du circuit européen, et qui aurait pu aller, qui perd 25-23, un truc comme ça au 3ème avec des volants de match en quart, non? Ou en demi même. Donc vraiment un joueur qui peut aller jusqu'au bout. Et Lucas Clairbout, il a affiché un meilleur niveau aussi. C'est rassurant.
Voilà, des joueurs qu'on voit plus d'habitude en top 12, surtout pour Sacha Lévesque. Tiens, en parlant de joueurs de top 12, Nathan Nguyen était tête de série 2. Il est bien passé à côté de son tournoi aussi à domicile.
Très décevant.
Il a perdu au premier tour contre un Taïwanais, Su Li Yang. Benoît, ce tableau de simple homme, est-ce qu'il t'inspire? Tu veux rajouter quelque chose ou on enchaîne?
Non, t'as dit tout ce qu'il y avait à dire, je crois.
Eh bien, on enchaîne donc avec le simple dame, où là, c'est entre japonaises, et c'est la finale, et c'est Riko Gonji, la championne du monde junior 2019, je crois, qui a battu sa compatriote Natsuki Nidaira, 21-13, 21-11. Riko Gonji, c'était un peu... Enfin, elle était parfois un peu... Enfin, elle n'avait pas tant de victoires sur le circuit senior, Benoît, depuis son titre de championne du monde junior. Là, bon, ouais. Ça va pas être la semaine de sa vie, mais ça fait plaisir de l'avoir gagné déjà.
Oui, c'est ça, ça fait plaisir de l'avoir gagné, mais bon, on n'a plus envie de la... Enfin, en vrai, si, parce que Konmiya Bischfeld, je trouve qu'elle a bien prouvé, mais on n'a plus envie de l'avoir sur des tournois de ce niveau-là, tu vois. On a envie, évidemment, on a bien conscience qu'elle va pas gagner d'entrée sur le circuit World Tour, mais on a envie de la voir sur des 100, sur des 300, et je pense qu'elle peut faire très mal. Enfin, quand tu vois ce qu'elle a mis à Blichfeld, bon, qui est hors du top 20 mondial, et à mon avis, c'est son niveau actuel, mais ça montre quand même à quel point Riko Gonji a du potentiel.
Ouais, Blichfeld, c'est compliqué par contre. Hein. Ok, elle met des tôles quand elle joue contre des joueuses moins fortes, mais là, le fait qu'elle ne batte pas Gonji, c'est quand même assez, assez révélateur après sa défaite contre Karfeldt en Allemagne, je crois.
Ouais, bah elle est, je crois qu'elle est même plus... Je vérifie en même temps que je le dis, mais il me semble qu'elle n'est plus numéro 1 danoise. Hein.
Ouais, non, c'est assez
Peut-être
assez
une
terrible.
Bêtise, mais...
Alors, les Françaises, il y en avait quelques-unes. Chichoufei, bah, c'est dur de parler de Chichoufei puisqu'elle a passé deux tours et elle devait jouer donc Riko Gonji, mais elle a déclaré forfait. Est-ce que tu veux en dire un mot quand même?
Bah, c'est compliqué. Je te confirme qu'elle est numéro 3 danoise, Mia Bischfeld.
Ah, donc elle est passée derrière Christoffersen et Karfeldt, du coup?
Ouais, ce qui est... Bon, Christoffersen, c'est un peu dur, mais Karfeldt, c'est logique. Ouais. Pardon, je t'ai du coup coupé sur Chichoufei. Dommage parce que j'aurais bien aimé voir ce qu'elle était capable de proposer à Riko Gunji.
Moi aussi. Dommage aussi pour Yael Oyo qui était tête de série, qui perd dès le premier tour contre Agnès Korosi, une joueuse qu'on connaît bien puisqu'elle joue en top 12 à Strasbourg, me semble-t-il. Défaite de la française 21-12, 13-21, 21-18. Bah Benoît, quand t'es tête de série, que t'as 30 places d'avance au ranking, c'est dommage de perdre alors qu'il y avait quand même une petite place pour aller loin quand même dans ce tableau pour Yael Oyo. Enfin, normalement.
Ouais, mais non. Enfin, je veux dire, c'est se leurrer sur le niveau actuel de Yael Oyo quand même. Enfin, que se dire ça.
Bah ouais, je me doute bien, mais ça montre bien que. Ouais. Et Léonie Sué qui a passé deux tours contre l'Irlandaise Kate Frost et la Danoise Frederikke Lund, et avant de perdre face à la tête de série 2 Yvonne Lee en 3-7, 21-16 au 3ème. Bah là aussi dommage, mais on va dire c'est pas infamant pour le coup de perdre contre Yvonne Lee, mais le fait qu'elle ait réussi à l'accrocher et qu'elle aurait pu la battre, ça aurait été un bon coup pour Léonie Sué.
Oui, même déjà prendre un set c'est un bon coup, surtout le niveau de jeu produit. Clairement, on va pas faire les langues de bois. On lui est tombé dessus en top 12. Hein. Elle perd un match contre Zera Erdem, c'est honteux. Faut dire les choses comme elles sont. Je m'attendais pas à la voir accrocher Yvonne Lee, même si bon, la saison d'Yvonne Lee aussi, on pourrait dire que c'est pas la meilleure de sa carrière, mais ça reste une joueuse top 5 en Europe et sur le papier bien meilleure que Léonie Sué. Donc c'est déjà une belle perf de l'accrocher.
Je suis totalement d'accord avec toi. On enchaîne avec le double homme, où ce sont des Japonais, à savoir Hayato Endo et Yuta Takei, qui ont battu les Danois Rasmus Kjær et Frédéric Sogard. Pour une fois qu'on voit Sogard en tournoi, il n'arrive pas à le gagner, c'est dommage. Les Français, Lucas Corvée et Ronan Labarre, qui perdent contre Jesper Toft et Andreas Sondergaard dès le premier tour, 16-21, 21-7, 23-21. Là aussi, je suis une de mes grosses déceptions de la semaine, Benoît.
Ouais, je peux le comprendre. Je m'attendais à un peu mieux, en vrai.
Ils sont pas mal, Ronan Labarre et Lucas Corvée. Quand ils perdent sur le circuit, c'est contre des bonnes paires asiatiques. Là, tu peux t'imaginer qu'ils passent au moins 2-3 tours sur un tournoi comme ça.
Après, ils font pas une mauvaise semaine, les mecs en face. Alors, Jesper Toft, on le connaît. La paire, on la connaît clairement pas. C'était un peu un match piège, mais oui, je suis d'accord avec toi. Ils perdent rarement contre des nouvelles paires ou des jeunes comme ça. Ça, c'est vrai.
Ronan Labarre qui perd donc contre son partenaire de top 12.
Oui.
Et les deux autres paires françaises du tableau, bah, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais se sont affrontées au premier tour. Malheureusement pour Julien Maillot et William Villéger, ils perdent sèchement contre Kenji Lovang et Léo Rossi, 21-13, 21-12. Est-ce que ça t'a surpris ce résultat, Benoît ?
Non, parce que quand même, en qualif, ils avaient battu Michael Maguire, Cher Pringle, Andrew Oates et Scott Oates. Enfin, tu vois, c'est quand même des paires.
Maguire, il joue à Manchester United, je connais.
Oui, et Pringle, tu rajoutes un S et tu sais. Enfin, bref.
Mental de chips.
Non, le premier tour était. Enfin, je veux dire, je vois pas qui pourrait dire le contraire. La prestation était catastrophique sur ce premier match. Alors, est-ce qu'il y a eu des douleurs qui se sont réveillées en qualif? J'en sais rien. Mais la prestation, catastrophique. Jamais tu dois perdre comme ça contre le Van Grossi. Enfin.
Oui, parce que.
Eux ont été sérieux, mais...
Oui, on précise que, ok, vous allez pouvoir nous dire, oui, mais Maillot et Villéger, ils se connaissent pas bien.
Non, arrête.
Mais, peut-être, mais individuellement, je les vois bien plus forts que Lovang Grossi, ont fait leur match, tant mieux pour eux, et qui ont perdu au tour d'après contre les futurs vainqueurs Endo Takei, 21-17, 21-16.
Et qui ont été bons, d'ailleurs. Faut le dire, en vrai, Lovang Grossi, ils ont été bons, mais c'est juste que... Enfin, Maillot et Villéger, on parle de ta... Dans l'imaginaire là actuel, c'est ta paire numéro 2, voire potentiellement 1. Ça doit être. Bah, 3 actuellement, mais ça doit être plus que ça.
Oui, c'est clair. On parle beaucoup des pop-off qui gagnent pas beaucoup de matchs, mais en attendant, personne n'arrive à faire mieux qu'eux. Donc, c'est ça qui est assez triste. Voilà, Léo Rossi qui revenait sur les terres de son sacre, puisqu'il avait gagné le simple en 2018. Rigole pas, c'est vrai.
Je sais que c'est vrai, mais bon, le niveau du tournoi cette année était quand même bien supérieur.
Je pense aussi. Benlane et Sean Wenji, petit mot pour dire qu'ils ont perdu au premier tour, pour relancer la machine Benoît. 21-17, 17-21, 21-19.
Aïe, aïe, aïe.
Bah, il peut y Je sais pas s'ils en avaient quelque chose à faire, pourtant le trajet était pas très long pour eux, ils ont pu venir en train. Mais je sais pas s'ils étaient pas motivés ou alors trop fatigués de leur, il faut le dire, bonne perf ces dernières semaines, notamment en France et en Allemagne. Mais là, ça l'a pas fait malgré, je sais que je t'avais envoyé cette vidéo, un peu de provoque, voilà, en gagnant le deuxième set. Mais malheureusement, il y a eu un petit retour de karma pour Ben Lane.
Back to basics, comme on dit dans le milieu.
Voilà, tu fais le show quand tu gagnes le deuxième set et puis juste après t'es dans le train pour rentrer
puis,
à la maison, c'est dur.
Tu perds pas contre la paire qui va au bout, hein, puisqu'ils ont pas passé un tour de plus les mecs quand même.
Non, c'est vrai. Voilà, pour le reste du tableau, il y avait les frères Grimley qui ont perdu au troisième tour. Dans les paires que vous pouvez connaître, il y avait Inoue, le japonais qui jouait avec Mitsuhashi. Ils ont perdu son nouveau partenaire, ils ont perdu au troisième tour. Et voilà, c'est à peu près tout. Le double dame. Quand je prends le volant, c'est pas pour jouer au badminton, wesh. Double dame qui a été remporté par les Taïwanaises Chang Yang contre les Danoises Bush Schultz, 19-21 au troisième, 21-19 au troisième, donc un vrai gros match. On va plutôt parler des Françaises, puisqu'il y en a une qui a fait un bon parcours, qui s'est abruptement terminé. C'est Flavie Vallée et Émilie Verselot, qui ont passé trois tours. Alors, elles n'ont pas battu les paires les plus dures de leur carrière, je pense, trois paires britanniques, bien aidées par le forfait des têtes de série 1, Effler, Le Haut, les Allemandes. Mais elles, finalement, perdent en demi-finale contre les futurs vainqueurs, mais c'est surtout le score qui fait mal, 21-11, 21-5. Bon, on retiendra plutôt le fait que Vallée-Verselot ont enchaîné des victoires avant.
Oui, bah t'as tout dit. ça me convient très très bien. Elles vont chercher des gros points, mais putain, ça me fait mal que ce soit... Enfin, non, ça me fait plaisir pour elles parce qu'elles progressent vraiment. Contrairement, j'avais eu des doutes hein, sur Flavie Vallée, je le cache pas. Mais elles progressent vraiment, mais ça me fait mal que quand tu vois qu'il y avait Margot Lambert aussi dont on va parler, ça me fait mal que ce soit Vallée-Verselot qui soit en demi de ce tournoi.
C'est clair que là aussi, un tableau un peu déséquilibré. Margot Lambert et Anne Tran, elles, qui étaient tête de série 2 et qui n'ont pas eu à jouer de premier tour, ont gagné facilement le deuxième avant de perdre au troisième contre les futurs vainqueurs Chang Yang, 21-14, 21-17. Bah voilà, elles perdent contre une paire qu'on ne connaît pas, mais qui, comme d'habitude avec les paires asiatiques qui vont jouer ce genre de tournoi, n'ont pas le niveau de leur classement, qui, en l'occurrence, ce classement ouais. est 61e mondial. Et c'est dommage pour la paire française qui... Petit coup d'arrêt quand même, parce qu'elles étaient pas mal ces derniers temps, et autant perdre au deuxième tour ou au troisième tour sur les tournois qu'elles jouent d'habitude, c'est ok, mais là, sur cette Irish Open, on les aurait bien vu aller plus loin, surtout qu'elles étaient la meilleure tête de série qui était là.
Ouais, et la deuxième meilleure paire du tournoi, même si les Bush Schultz prennent un set aux Taïwanaises en finale, je pense que Lambert Tran avait le potentiel pour aller en finale dans la partie haute. Voilà, tu le sais, ça peut arriver dans ces... Sur ces tournois européens, voilà, tu prends des paires asiatiques non tête de série et malheureusement, bah c'est compliqué, mais on pouvait quand même espérer mieux de Lambert Tran, malgré ça.
On pouvait, ouais, je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est dommage de les prendre aussitôt surtout.
Oui.
Et voilà, et je mentionne Sharon Bauer, qui petite paire qui sort de nulle part aussi avec la Danoise Iben Bergstein. Elles ont perdu, elles n'ont ouais. pas eu à jouer de premier tour, elles ont perdu au deuxième contre les Suédoises Nystad Sylvain Noinen.
On va reparler de Iben Bergstein dans peu de temps.
Ok, petit teasing, ça fait plaisir. Et donc le dernier tableau, le mixte.
On va en parler tout de suite.
Remporté par les youtubeurs Gregory Merz, Jenny Moore. Contre
oh oui.
Andreas Sondergaard et donc Iben Bergstein, Benoît vient d'en parler. 21-16, 21-13, donc Grégory Merz et Jenny Moore qui avaient déjà gagné ce tournoi en 2017 et qui ont joué des gros matchs dans la semaine, mais pas en finale, Benoît.
Non, pas en finale. En tout cas, Sondergaard, on disait qu'on le connaissait pas et tout, mais...
Il fait sa semaine.
Vrai potentiel, je pense qu'il est déjà passé devant... Notre ami, je viens de manger son nom.
Segard
dans la hiérarchie des joueurs de double au Danemark.
Oui, je pense aussi. Non, si j'en parle vite fait. Merz Moors qui ont fait surtout le boulot avant, en fait, oui. Avec les deux autres paires danoises, quand ils ont battu Mikkelsen Søby en quart et surtout. Thierry Magelund en demi, 23-21 au troisième set. Donc c'est surtout là qu'ils ont fait le boulot. La finale a été a été plus facile, mais bah, allez, je suis content pour eux, ils sont sympas, je trouve. Puis voilà, la chaîne, leur chaîne YouTube, Badminton Insight, si vous voulez apprendre à faire un smash, ça peut être utile pour certains qui nous écoutent, par exemple. Les Français n'ont pas spécialement brillé dans ce tableau, c'est pour ça que j'essaye de combler, Benoît.
Je me doute.
Lucas Corvée et Sharon Bauer, qui pourtant sortaient d'une bonne victoire, et en plus qui là ont battu une tête de série dès le premier tour, à savoir les Allemands Scheichel Volkmann, 21-19, 21-15. Ils perdent contre Vestergaard et Christine Busch, 24-22, 15-21, 21-18. Au deuxième tour, je finis avec les Français, après tu me diras ce que t'en penses. Samy Corvée et Flavie Vallée, bah, qui eux ont pris un tirage assez difficile avec Thierry Magelund au premier tour et perdent 21-13, 21-15. Et c'est tout, je pensais qu'il y avait une troisième performance. Voilà, tout en haut du tableau. Grégoire Deschamps et Émilie Verselot qui ont aussi perdu contre des Danois. Les finalistes, Sondergaard, Bergstein, 23-21, 21-15. Voilà, pas le tournoi le plus mémorable pour les Français en mixte.
Juste un mot sur Corvée Bauer, titre en Norvège la semaine dernière. Écoute, cette paire, on l'a commencé à la regarder avec, j'ai envie de dire, de la curiosité. Aujourd'hui, c'est top 70 mondial. Ça peut devenir ta deuxième paire, sans déconner. Je pense que ce serait pas honteux. Et franchement, moi, je kiffe bien les voir jouer ensemble. C'est cool pour Sharon Bauer, parce que je trouve qu'elle a été mise au placard, à mon sens.
Un peu vite,
parce que... Est-ce que la paire Villégé-Tran est meilleure que la paire Villégé-Bauer? On peut en débattre. La réponse, pour moi, c'est non. Donc, ouais, je suis content quand même, pour les deux, en fait.
Je suis d'accord avec toi, et on verra ce que ça donne, mais je pense qu'il y a du potentiel. Mm-hmm. Benoît, est-ce qu'on finit là avec l'Irish Open?
Oui, et puis on se donne rendez-vous pour de meilleurs tournois, j'espère.
Voilà, c'est ça. Finalement, quand même décevant qu'il n'y ait qu'une seule demi-française de Vallée-Versolo.
Oui.
On en attendait peut-être un peu mieux dans ce tableau, avec tous les Français qui étaient présents.
Au moins sur trois tableaux, on attendait mieux que ça, ouais.
Ouais, voilà. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi.
Ben merci à toi Ewan, et merci à vous pour votre écoute. J'espère qu'on n'a pas été horrible à écouter quand même.
Voilà. Notre calendrier pour les prochaines semaines n'est pas très clair, mais on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux, et vous inquiétez pas, on a encore quelques bons épisodes avant la fin de l'année. Donc on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de 21 Shuttle. Portez-vous bien, à plus.
盛放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。你是否在倾听这平凡？